La Halte,
le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
Un podcast de Quartier Libre.
Projet d'une vie, quoi. Je considère le projet de vie de l'art comme une œuvre à part entière et un peu l'œuvre de ma vie, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup agrémenté de sculptures à moi. Il y avait des moments un peu de poésie, mais je me souviens de jours où il avait neigé et où la neige fondait sur les pièces en métal que j'étais en train de souder.
Et moi, j'ai directement sauté sur l'occasion parce que c'est quand même un luxe de pouvoir vivre de ce qu'on aime.
C'est un temple de curiosité, donc évidemment, quand on a découvert le lieu, on était hyper intrigués. Il y a un potentiel phénoménal sur le lieu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de La Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un lieu que j'ai trouvé vraiment incroyable, les Vivres de l'Art, le domaine du possible à Bordeaux. En plus d'être un lieu complètement unique, qu'il est même difficile de comparer, ce bâtiment est classé monument historique et a connu un passé et une histoire qui me fait tant aimer les friches.
Alors bienvenue aux Vivres de l'Art. Donc les Vivres de l'Art, c'est les anciens vivres de la Marine Royale qui sont classés monuments historiques parce que c'est des bâtiments du 18e donc. Et au 18e siècle, il y avait la Garonne qui passait au fond de la cour, là, de la place qu'il y a, donc au niveau où il y a un mur actuellement. Et du coup, la Marine Royale avait installé toute son intendance pour affréter les bateaux qui traversaient l'Atlantique. Donc il y avait un corps de bâtiment assez imposant où justement il y avait toute l'ingénierie maritime et le stockage des bestiaux et des denrées. Et ensuite deux pavillons que j'occupe actuellement qui étaient en fait les tueries. Et on dit tuerie quand c'est militaire. On dit abattoir quand c'est public et tuerie quand c'est militaire. Et du coup, moi, j'ai récupéré en 2000... moi, je suis une première fois en 2003 pour y installer mon atelier. Et puis après, j'ai voulu lancer ce projet des Vivres de l'Art en 2008. J'ai récupéré ces deux pavillons pour les transformer, un en atelier, l'autre en galerie et en résidence d'artiste. Voilà. Et du coup, c'est un projet qu'on a commencé donc en 2008 avec des travaux qui ont débuté en 2010, qui sont étalés à peu près sur une dizaine d'années, un peu moins, jusqu'à la mise en conformité, ERP, tout ça, bien, bien nickel. Et maintenant, on développe ce projet donc autour, pas simplement des arts plastiques, mais plutôt sur un projet transdisciplinaire qui nous a amené à sous-titrer le projet des Vivres de l'Art, le domaine du possible. Voilà. Parce que justement, ce qui nous intéresse, c'est de faire à peu près tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi.
Nous nous trouvons en plein cœur du quartier de Bacalan, juste à côté de la Cité du Vin. On arrive sur ce lieu rempli de sculptures métalliques d'une grandeur épatante. On se croirait dans un univers hors du temps, entre le pays d'Alice au Pays des Merveilles et Game of Thrones. Ce qui nous entoure est impressionnant. Un parc très végétalisé, des sculptures en métal qui constituent un véritable village d'œuvres d'art et deux grands bâtiments qui se font face d'une beauté insoupçonnable. En plus de tout ça, nos oreilles sont attirées par les bateaux qui passent sur la Garonne et le chant des oiseaux, heureux de pouvoir se percher sur ces grands arbres qui, eux aussi, ont une histoire de plus de 100 ans derrière eux. Mais ce lieu n'aurait pas vu le jour sans son fondateur, Jean-François Buisson, qui a créé le projet des Vivres de l'Art en seulement quelques heures dans son avion pour retourner en France. un projet ambitieux et un peu fou dont il va nous parler.
Alors moi, je m'appelle Jean-François Buisson, je suis sculpteur de pièces monumentales et sociétales, donc des pièces en métal surtout, principalement, et j'ai 54 ans. Et en fait, je me suis lancé dans le projet des Vives de l'Art à l'aube de mes 40 ans, où en fait, je rentrais d'une expo en Floride. Et j'avais du mal, en fait, tout simplement, à passer le gap de l'international. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, t'as 40 ans, là, il faut que tu fasses un choix. Donc, j'exposais un peu partout. Là, j'étais à Miami. Tu vois, j'habitais au Ritz-Carlton parce que j'avais un mécène qui, tu vois, bon, mais du coup, j'étais au Ritz-Carlton, mais j'avais pas d'argent. Tu vois, j'avais une galerie à Saint-Tropez. J'ai passé mon été à Saint-Tropez, mais quand je revenais de Saint-Tropez, j'avais pas d'argent. Et tu vois, donc j'étais dans une espèce je surnageais, quoi, tu vois, mais sans être, tu vois, hors de l'eau. Et je me dis, bon, à un moment, là, ça va, t'as un peu d'énergie, t'arrives à t'en sortir, puis un jour, tu vas te noyer, parce que, tu vois. Donc, j'ai dit, OK. Donc, et là, j'ai écrit le projet dans l'avion en 8 heures, j'ai écrit le projet des villes de l'art, en fait, qui s'inspire d'une équation, en fait, ce que posent tous les artistes, c'est-à-dire qu'un artiste n'existe que s'il travaille, du coup, il faut un atelier. Si sa production n'est pas vue, discutée, achetée, il ne peut pas vivre. Du coup, il faut une galerie. Et pour se concentrer sereinement à son travail, il faut un endroit pour se poser en famille, si tu veux, recevoir des amis ou un vivre, pour justement se détacher des contingences matérielles. Et tout ça, plutôt dans un espace, si tu veux, public, si tu veux, de façon à être en contact. Après, tu peux très bien te retrouver en haut de la montagne, mais bon, c'est plus compliqué, quoi. Voilà. Et du coup, moi, ça faisait... j'étais très attaché au quartier de Bordeaux-Maritime parce que j'avais occupé la base sous-marine pendant très longtemps avec un groupe de musique que j'avais. Et puis, quand j'ai quitté la base sous-marine, je me suis installé en 2003 dans ce qui est aujourd'hui la galerie. Moi, de 2005 à 2008... Il y a eu les travaux du tramway. Du coup, l'accès à mon atelier était compliqué. Il y avait des engins partout. Du coup, je me suis mis à louer des ateliers. En fait, j'ai occupé à peu près tous les hangars disponibles du coin. J'ai occupé le hangar du port autonome qui a été rasé pour la Cité du Vin pour créer l'arbre du Hellfest, qui fait plus de 10 mètres. Et du coup, j'avais besoin d'un espace comme ça. Donc, j'ai occupé beaucoup d'espace. Et le dernier... j'occupais, c'était un atelier qui était juste derrière le garage moderne, qui est un autre espace culturel associatif qui répare des vélos et des voitures. En rentrant là dans l'avion, je me dis, bon, écoute, je loue un atelier, un bras, je verse la moitié de ce que je gagne, et, bah, une galeriste, bon, donc, qui fait son job, hein, voilà, c'est normal, hein, et je loue un appart au Chartron qui ne m'appartient pas. Mais si je prends tout cet argent-là, qui est perdu, eh bien, en fait, je peux le perdre dans un projet qui serait au moins le mien et qui, même si j'en ai pas la propriété et que j'en tirerai aucune plus-value, en tout cas, j'aurais écrit une histoire. Et mes enfants, même s'ils héritent de rien, ils hériteront d'une histoire. Donc voilà. Et du coup, là, je me suis lancé dans ce projet où j'ai proposé donc à la mairie de Bordeaux, qui est propriétaire des bâtiments, avec qui, en fait, moi, j'avais signé des conventions d'occupation à titre précaire, qui étaient tacitement renouvelables tous les ans. Et je leur ai fait la proposition, justement, de signer un bail emphytéotique. Sur une durée de 40 ans, pour justement, moi je voulais m'investir, mais je pouvais me faire forcément dégager, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, c'était compliqué, hein. c'était parce que ça, c'est quand même un projet qui est quand même étrange, quoi, tu vois, qui est pas commun, quoi. Et du coup, les gens ont trouvé ça bizarre que je récupère. Et du coup, il y avait le secrétaire général de la mairie de Bordeaux qui voulait pas me louer, qui voulait pas me signer le bail et qui voulait me le faire pour 20 ans. Puis je dis, mais non, 20 ans, ça va être la durée de mon emprunt. Donc moi, je me retrouve à 60 ans, j'aurais tout payé, et si vous me virez, tu vois, j'ai tout payé, je vous ai tout refait nickel, et c'est à vous. Donc j'ai dit, moi, je veux au moins 30, avec une date anniversaire à 20 ans, qui me prolonge de 10 de plus. Comme ça, je suis à 40, et quand j'aurai 80 ans, bon, j'envisagerai de faire autre chose, quoi. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on a pu signer. Et bon, je trouvais légitime, si tu veux, que. Parce que c'est quand même un artiste qui se lance dans un projet. Et c'est pour ça que la DRAC m'a beaucoup soutenu. La personne d'Alain Rieu, qui était conservateur des monuments historiques à la DRAC de Bordeaux, qui me disait quand même, c'est puissant, vous investissez personnellement beaucoup d'argent dans un projet qui ne vous appartient pas. C'est quand même très généreux et puis c'est très risqué aussi. Et donc, au vu du projet culturel et de votre engagement, on va vous aider et ils nous ont aidés. À hauteur de 50%, ils ont poussé, normalement c'est 40%, et justement ils ont poussé un peu le curseur pour justement aller un peu plus loin, ce qui fait que, mais fort de cette caution-là, si tu veux, on a pu avoir la région qui a suivi un petit peu, voilà, l'Europe aussi, et donc moi qui fais un apport financier d'un tiers, quoi, sur le projet, et j'ai complété ça avec une convention avec la Fondation du patrimoine qui permettait d'avoir accès à des défiscalisations d'impôts par rapport à des dons. Donc on a fait, tu vois, on a monté, ma femme, un dossier quand même très 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 compliqué. Et en fait, je pense qu'il correspond à ce qu'on devrait faire à l'avenir partout, c'est-à-dire plutôt que de construire des trucs pourris qui vont finir réhabiliter des choses. Que les gens en soient plus ou moins propriétaires sur leur temps, que ça puisse se transformer, mais plutôt que, voilà, voilà, la planète, elle ne nous appartient pas. Donc, ça ne sert à rien de dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, et puis ça aussi, et puis je ne le donne pas, parce qu'au final, quand on meurt, il ne reste rien. Tout ça, on se rend compte que c'est ridicule et que c'est pas grand chose, et que moi je préférais que mes enfants héritent d'une belle histoire, et voilà, les vives de l'art, ça c'est la dimension politique, justement, de partager un espace public, parce que moi moi je l'ai beaucoup investi, mais c'est accessible à tout le monde, t'as pu le constater, tu vois, t'as des gens qui se promènent partout, chez moi c'est très pour eux, voilà, c'est comme ça, mais c'est ma vie, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je considère que c'est les vies de l'art, c'est l'œuvre de ma vie, quoi, en fait. Et ce qui a aussi motivé ça, c'est que moi il y a la fondation Chilida à côté de Bilbao, justement, en fait, t'as un tas d'artistes qui ont créé des centres d'art autour de leur atelier, mais de leur vivant, en fait, parce qu'après, c'est souvent compliqué, il faut beaucoup de mécènes, et ça suit pas forcément, et en plus, il n'y a pas forcément de garantie, si tu veux, de pérennité du projet. Donc je dis, écoute, moi je vais m'investir de mon vivant, et puis après je le donnerai à d'autres artistes pour d'autres publics. Et voilà, c'est pour ça que là on est en train de créer un fonds de dotation qui s'appelle l'Hydre de l'art, justement pour se soustraire, si tu veux, aux demandes de subventions, en fait, l'argent public qui va en avoir de moins en moins. Et du coup, fonctionner plus sur du mécénat, c'est des gens qui ont de l'argent et qui ont envie d'en faire profiter d'autres de manière désintéressée, et plutôt s'inscrire dans une histoire que dans un programme purement capitaliste, quoi.
Mais Jean-François n'est pas seul. On a pu rencontrer Stan, régisseur général pour les vivres de l'art, qui semble aussi être conquis par son lieu de travail.
Alors moi, c'est Stan. Je suis régisseur général des vivres de l'art depuis 3-4 mois maintenant. Et ça consiste en gros à gérer tout l'aspect technique du lieu. Ça peut être aussi bien l'électricité que le son, que la lumière, en fonction des événements. C'est vraiment en fonction de ce qui s'y passe. Moi, je m'occupe de l'aspect technique dans tout le lieu, intérieur, extérieur, tout est possible. Et même le lieu, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'en entendais souvent parler. J'avais pas eu l'occasion d'y venir avant pour une soirée quelconque, mais c'est un nom qui quand même est connu sur Bordeaux, qui a une réputation. Et quand j'ai découvert vraiment le lieu et ce qui s'y passait, ouais, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est trop intéressant de pouvoir faire plein de trucs différents et j'apprends plein de trucs à plein de niveaux et c'est que de l'apprentissage de jour en jour, c'est vraiment un kiff, franchement. Parce que tous les gens qui travaillent ici, que ça soit le patron comme tous ses employés, quel qu'il soit, que ça soit la jardinière comme moi, comme Réjeanne qui s'occupe de la programmation, tout le monde est là par passion et on compte pas nos heures et c'est... Enfin, faut juste que le lieu tourne et on le fait vivre juste parce qu'on trouve ça trop bien, quoi.
Je vous ai beaucoup parlé du lieu, vous ne pouvez malheureusement pas le voir de vos propres yeux et c'est bien dommage. Mais c'est pour ça que j'ai mis en place les visites guidées sonores et je peux vous dire que je suis très heureuse de vous inviter à écouter celle-ci parce qu'elle vaut vraiment le coup. Allez, fermez les yeux, installez-vous confortablement où que vous soyez et écoutez ça.
Et là, du coup, on se trouve donc dans le jardin qui est un peu l'entre-deux des deux bâtiments. Si tu devais un peu décrire aux auditeurs, puisqu'ils n'ont pas la vision, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ?
Alors, l'espace, voilà, c'est un espace public, ça c'est important de le préciser. C'est un espace public qui est arboré avec d'immenses platanes qui sont aussi classés, remarquables, ils font plus de 30 mètres de haut. Donc c'est une place très qu'on a après beaucoup végétalisée et qui est en fait le trait d'union entre l'atelier et la galerie. Et du coup, ça nous a amené à rebaptiser cet espace-là, qui est la place Victor Rollin, l'Open Bar, pour consommer gratuitement et sans modération de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, cet espace-là se nourrit des transitions entre l'atelier et la galerie et de tous les événements qui se passent. Donc on conserve toujours les stigmates des choses qui sont passées ici. Et c'est un projet qui évolue en permanence. Là, on est plus sur... On a mis à profit ce temps de pandémie là, pour justement s'occuper beaucoup du jardin et beaucoup végétaliser. Et du coup, ça nous permet justement d'avoir un espace qui est pour eux, qui permet justement de recevoir divers publics au sens très large et du coup, les intéresser, les amener voilà, à s'ouvrir à l'art et à la culture.
Et tout autour, on voit surtout plein d'œuvres qui sont des œuvres que tu as réalisées ou avec d'autres artistes ?
Alors, il y a beaucoup d'œuvres que j'ai réalisées moi parce qu'en fait, je suis l'artiste résident principal. Mais après, il y a beaucoup d'autres artistes qui collaborent ici. Ça va de graffeurs à des sculpteurs sur pierre qui ont sculpté justement des plots en béton là, qui fermaient la place justement auquel justement il est venu faire un pouce, faire un petit fantôme, ça c'est des hommages à César ou à Christo. Voilà, c'est on a un lieu mémoriel aussi, c'est important. Un tas d'artistes qu'on prend en résidence et qui font des installations plus ou moins pérennes en fonction des matériaux qu'ils utilisent. Voilà, on a un hôtel à insectes aussi de Robin Godilla. Bon, il y a tout un tas de choses et puis des événements qu'on accueille ponctuellement. Hier, on avait le festival d'Aigmentel. Voilà, et on fait aussi des projets. On a eu le Festival des Vins Blancs de Bordeaux. Voilà, on a une volonté vraiment de s'inscrire dans un projet de société et pas en faire que juste un endroit... Moi, je voulais pas en faire un ghetto de sculpteurs métal, si tu veux, voilà. Contrairement à ce que pourrait être un white cube ou alors un jardin bien organisé, là, il y a un côté un peu foutraque qui donne une accessibilité. Qui est beaucoup très apprécié par le public. Voilà.
Et alors, tu nous fais visiter les deux espaces pour les décrire un petit peu ?
Oui, alors d'un côté, il y a donc mon atelier. Donc mon atelier, quand je l'ai récupéré, en fait, le bâtiment est brûlé. Du coup, le toit était écroulé. Tu vois, tu vas passer le bateau là-bas. C'est, quand même, c'est un peu surréaliste comme ça, qui te rappelle en fait que la Garonne est vraiment pas loin. On la voit pas, mais elle est au 18e. Elle était juste là, donc il serait passé très près de nous. Là, il est à une centaine de mètres, un peu plus loin, parce que les villes de l'art sont situées dans le quartier de Bacalan, de Bordeaux Maritime, et donc à proximité des bassins à flots. Et en fait, quand ça fait partie, voilà, quand ils ont creusé les bassins à flots, voilà, ils ont mis, comme quand tu creuses ta piscine, tu mets la terre juste à côté, et du coup, ça, le quai s'est un peu déplacé, et voilà, ils ont reconstruit le quai un peu plus loin, c'est pour ça que ça s'est légèrement déplacé, puis après l'évolution du cours de la Garonne. Donc voilà, quand j'ai récupéré le bâtiment, en fait, mon atelier, le toit était écroulé, le bâtiment avait brûlé, la façade avait été défoncée parce que c'était le port autonome qui est en fait une éménescence de l'État et du coup qui légitima après avoir été la marine royale après la Révolution, mais c'est devenu dans le domaine public. Donc c'est le port autonome de Bordeaux qui occupait ces bâtiments-là et qui les a abandonnés quand les activités portuaires se sont placées plus en amont du fleuve pour être plus près de l'océan et pour avoir un site... plus industriel, ce qui a amené, si tu veux, le quartier de Bacalan à être désenclavé et à faire qu'aujourd'hui, on est vraiment, on est en ville, quoi. Moi, il y a pas si longtemps que ça, les Bordelais passaient pas le pont qui est là. Et ce qui était très étrange et qui me plaisait bien, c'est que les Bordelais considéraient que c'était pas Bordeaux. Et les Bacalanais considéraient que c'était pas Bacalan. Donc on était dans une espèce de no man's land, un peu comme ces zones tampons qui existaient quand il y avait des frontières, où tu as une bande de 100 mètres, où c'est rien. Mais du coup, tout est possible. Et moi, cette idée-là me plaisait beaucoup. Et donc, ça a bien changé. Mais on a gardé quand même cet esprit un peu d'oasis, un peu intemporel et puis un peu hors norme et un peu hors règle, même si la contingence urbaine a fait que on doit plus composer qu'avant. Mais c'est le principe de la société et on s'y plie. On pousse toujours un peu les limites. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, on est borderline, mais du bon côté de la line, quoi. Voilà. Donc, ces bâtiments-là, je les ai récupérés et coulés. La façade avait été défoncée parce que le port utilisait l'atelier comme un atelier de réparation. Et du coup, à force de grandes discussions avec la DRAC, qui nous a beaucoup soutenus au titre des monuments historiques, et du coup, comme il y avait la DRAC, la région a dit écoutez, ouais, on va vous soutenir aussi au niveau de restauration. Et puis, comme ils sont soutenus au niveau de la restauration, ils ont dit aussi on va vous aider au niveau de l'équipement pour l'aménagement. Et puis, comme je te disais, le quartier est très, très enclavé. L'Europe nous a dit on va vous filer un peu de pognon pour faire tout ça. Et tout ça a été possible parce que moi, je ne suis pas propriétaire. En fait, c'est la mairie de Bordeaux qui reste propriétaire du bâtiment. Et j'ai signé un bail emphytéotique avec la mairie. Alors, c'est un truc un peu technique qui m'accorde en fait les droits de la propriété sur une durée déterminée, en l'occurrence 40 ans. Et donc j'ai signé, moi, quand j'avais 40 ans. En fait, c'est un projet d'une vie, quoi, si tu veux. Je considère le projet des Vives de l'Art comme une œuvre à part entière et un peu l'œuvre de ma vie, quoi. C'est pour ça que c'est beaucoup agrémenté de sculptures à moi. Et donc on va visiter, si tu veux, mon atelier.
Avec cette grande porte qui est assez impressionnante.
Alors, il y a un truc un petit peu magique, justement, cette grande porte. En fait, il y a une première porte. Tu vois, cadenas. Ah. Donc, il y a une première porte comme ça, qui est ma petite porte de service, en fait.
Deuxième porte qui permet...
De rentrer et sortir d'une manière plus pratique. Et ensuite, il y a une...
Wow.
Troisième porte.
Ah, ouais. Ah non, on s'y attend pas.
Ça, on s'y attend pas. Ça, c'est la troisième porte magique.
Trop bien.
Voilà, où en fait, t'as toute une partie du mur qui s'ouvre.
En fait, ça, ça a été possible parce que justement, comme le port, avant que ça soit classé, avait défoncé la façade pour pouvoir rentrer des camions, il m'a mis un gros portail en métal un peu dégueulasse, mais super pratique. Et moi, je suis sculpteur de pièces plutôt monumentales. C'est-à-dire, je collabore beaucoup, entre autres, pour le Hellfest, et donc, qui est mon plus gros collectionneur et avec qui je collabore depuis le début. Et du coup, c'est beaucoup de pièces qui font plus de 10 mètres. Et donc, je dis, écoutez, moi, je suis sculpteur, je veux bien restaurer la façade, mais ça m'arrangerait de pouvoir garder la grande porte, quoi. Et donc, je leur ai proposé de restituer la façade comme à l'origine, mais l'élément qu'on a rajouté, de le monter sur un énorme pivot pour pouvoir justement rentrer et sortir des grandes pièces. Et après, à l'intérieur, mais pareil, le toit qui était effondré, moi j'ai occupé l'espace avant qu'il soit refait. Je l'ai utilisé comme un atelier. Et du coup, ce qui était très agréable, c'était que c'était baigné de lumière, mais que quand il pleuvait, il pleuvait fort, et quand il neigeait, il y avait des moments un peu de poésie. Mais je me souviens de jours où il avait neigé et où la neige fondait sur les pièces en métal que j'étais en train de souder. Et bon, c'était magique, mais c'était pas... J'ai dit, voilà, je m'en souviendrai, mais si je peux oublier, tu vois, moi, plus être confronté à ce genre d'événement, c'était mieux. Et du coup, j'aurais proposé de même de retrouver la volumétrie originelle de la charpente, mais d'y installer une grande verrière qui permet d'avoir un volume très 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 bien éclairé, avec donc un espace au centre qui est dédié au travail du métal, mais qui peut accueillir en fait sa vie au rythme des créations. C'est-à-dire que souvent, quand je sors une grosse pièce, après l'atelier est vide, et du coup, c'est des moments qu'on essaie de mettre en avant pour accueillir d'autres projets. Donc, on a eu des spectacles de danse, on fait beaucoup d'événements, ce qui permet d'enrichir aussi et de charger, de rajouter un supplément d'âme à l'espace. Et du coup, ce grand volume-là est toujours envahi ou libre. Et ensuite, sur le côté, on a plusieurs ateliers dédiés. Alors, à un moment, à d'autres pratiques, parce que moi, je travaille le métal, mais je le confonds toujours à d'autres matières. Donc, à un moment, on avait un atelier bois, un atelier verre, un espace multimédia en haut, en fait, pour gérer du son et de l'image. Voilà, et puis un espace bureau, et juste à côté, on va passer à côté, je vais te montrer. On avait au 19e en fait une partie qui avait été rajoutée, qui était un peu anachronique, c'est-à-dire qu'il y avait une construction qui architecturalement n'avait rien à voir, mais qui existait, et on ne savait pas comment la retraiter. Et moi, j'avais besoin moi, j'avais envie justement d'avoir ce projet de résidence d'artiste, au-delà de ma résidence à moi, pouvoir accueillir ponctuellement d'autres gens qui... Et du coup, je voulais installer dans cette petite annexe, mais qui était mal foutue, qui était étrange. Et là, la drague m'a dit, écoute, ok, rase tout.
Ah ouais.
Et en fait, on part sur un projet radicalement différent et très contemporain. Et du coup, on a créé ce bâtiment-là, cette annexe-là, qui en fait est inspirée du principe des architectures en container. Sauf que là, c'est un container un peu de luxe parce qu'il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus haut, il est un peu plus long, et surtout, il est bardé de cuivre. Et du coup, après, avec il vient vraiment se poser comme une annexe. Donc, on retrouve l'idée qu'à un moment donné, ce bâtiment a été annexé par justement une architecture qui n'avait rien à voir. On conserve ça, mais on le radicalise pour dire que vraiment ça n'a rien à voir. Et en même temps, on a réussi à l'intégrer. Ça, c'est les architectes de PM Architecture avec qui on a travaillé pour la partie contemporaine. C'est Aurélien Dufour, l'architecte du patrimoine. Ça a aidé. Il y avait deux équipes d'architectes
Aurélien Dufour sur la partie patrimoniale, qui a mené tout le projet de restauration dans les règles de l'art, si tu veux, en correspondance à ce que demandait la DRAC, les monuments historiques, et tout ça. Et donc sur la partie contemporaine, donc de PM Architecture, qui a eu la bonne idée en fait de reprendre le bossage des pierres, donc c'est des bâtiments tout en pierre, de reprendre le bossage des pierres pour justement filer tout autour et intégrer du coup ce module-là au reste de la charpente. Et donc créer devant et derrière deux petits espaces, une terrasse à l'avant et un petit jardin à l'arrière, et de l'intégrer en fait avec juste ces lignes-là au bâtiment. Le projet qui s'appelle Chez Michel, qui est en référence à Michel Larue-Charlu, qui est une grande dame, si tu veux, qui était directrice générale de l'aménagement à la ville de Bordeaux et qui a beaucoup soutenu le projet et qui était beaucoup investie dans tout la réhabilitation des bassins à flot et du coup, et justement, qui avait une volonté de faire la ville autrement. Et bon, après, c'est un projet lourd, hein, quand tu fais de l'urbanisme comme ça, tu as beaucoup de contingences à régler, du coup, c'est pas simple. Mais en tout cas, elle avait vraiment volonté de l'intégrer, l'art et la culture, voilà, dans les fondations de ce quartier. Et du coup, voilà, quand elle est partie sur d'autres missions, en fait, il y a plusieurs mécènes qui ont dit, bon, voilà, on va faire un petit hommage. Donc c'est un petit clin d'œil, ça s'appelle Chez Michel, et c'est en référence à elle. Et du coup, c'est un petit appartement constitué d'un petit salon avec une kitchenette, une grande salle de bain et une chambre, avec un toit accessible, un toit terrasse accessible au-dessus.
Et qui donne vue sur la Garonne.
Et qui, en fait, est... Et un projet qui aurait vocation à être développé, et du coup à pouvoir faire que les vivres de l'art puissent envahir la planète un peu avec des modules comme ça qu'on pourrait les poser sur un fjord en Norvège, sur une montagne en Patagonie, ou je veux dire un peu. Mais l'idée, ça serait ça justement, d'avoir une espèce de... Alors, patignoles, parce que c'est quand même plus confortable, plus grand que ça.
Ça ressemble à un bassin.
Mais voilà, tu le vois bien sur le côté, on s'en rend bien compte. Tu vois, c'est une architecture très, très sobre, en fait, tu vois, avec deux grandes baies vitrées à l'avant et à l'arrière, et une meurtrière en partie haute sur le côté pour justement... voir toujours le soleil qui se lève et en même temps avoir une intimité, vu que c'est très ouvert devant et très ouvert derrière, au milieu c'est peu ouvert, voilà.
Et tu fais à peu près combien de résidences par an?
Alors on n'a pas de protocole strict là-dessus, en fait c'est en fonction des opportunités, des rencontres qu'on a, de l'urgence des gens à produire des choses, et donc ça va de temps un peu long à juste une nuit parce qu'il y a un artiste qui vient se produire là pour un concert ou qui vient juste pour une exposition ou... Voilà, du coup, l'intérêt, c'est que c'est directement connecté à l'atelier. En fait, tu peux venir directement de chez Michel à l'atelier ou passer par l'extérieur. Voilà, mais j'avais envie qu'il y ait cette possibilité de connexion directe. Et ça permet aussi à des gens qui viennent en immersion, voilà, dans la ville de Bordeaux, si l'espace est disponible, aussi, il n'y a pas d'exclusivité à être rattaché au vivre de l'art pour être là. Donc voilà, et donc tout ça, là, c'est donc la partie atelier, mais sur le côté, après, il y a tout un espace, en fait, on pourrait dire dédié aux enfants avec des jeux. Il y a un manège janté un peu délirant. Il y a un poulailler, normalement il y a des poules, là on va pas attendre les poules parce qu'on a un souci là, cet été avec les poules. Voilà, une fontaine aux sorcières là justement, qui justement, c'est parce qu'en fait
les platanes sont disposés de telle manière qu'en fait ça fait des petites clairières, comme ça qu'on appelle ça des clairières aux sorcières, quand ils sont disposés en cercle. Et du coup, ben, on a investi cet espace en créant une fontaine, un bassin d'eau qui voilà, et à un moment une respiration, un point de rafraîchissement, mais qui aussi peut avoir vocation à faire office de scène. On a fait des spectacles de danse dessus. Voilà. L'idée, c'est que chaque aménagement puisse, au-delà de son esthétique, de son aspect plastique, puisse être utilisé pour d'autres choses, quoi. Mais là, le platane, voilà, alors, typiquement, ça, c'est un arbre qui était malade, un des platanes qui était magnifique, qui était malade, qui a été coupé cet hiver. Et quand ils sont venus, ils devaient le couper à ras. J'ai dit non, mais attendez, moi mon leitmotiv, c'est je fais des arbres. Je fais beaucoup d'arbres et en métal. Mais un des premiers que j'ai fait, en fait, c'était un chêne qui est tricentenaire, qui avait été déraciné par la tempête, hein, que j'ai redressé à l'aide de prothèses métalliques. Et bon, c'était un boulot fastidieux, voilà, et un peu vain, parce que bon, l'arbre il est mort, hein, même si tu lui mets des prothèses. Même si tu mets des prothèses de hanche à un gars, le jour où il est mort, la prothèse elle reste, mais lui il est mort, hein, c'est pas, ça changera rien. Et du coup, après, je me suis mis à faire des arbres mais tout en métal. Et là, ce qui était intéressant, c'est que j'ai demandé aux élagueurs qui sont venus le couper. J'ai dit non, mais attendez, on va le couper, parce qu'il était vraiment malade. Il allait tomber, pas imminemment, mais un jour il allait tomber. Donc de le couper jusqu'à sur la partie où il était encore sain. Donc on a pu garder un peu plus de 3 mètres, entre 3 et 4 mètres. Et du coup, je suis venu faire des platanes. Et les platanes, quand tu les coupes, en fait, ils rejettent, qui fait ces gros bourrelets au bout des branches. Et du coup, moi, j'ai fait un gros bourrelet en métal, comme ça, qui est justement gros, parce qu'il avait été sectionné sur sa partie la plus large, son tronc. Et du coup, après, je l'ai recoiffé. Voilà, je lui ai refait sa couronne et j'ai installé aux extrémités des extincteurs, dans lequel en fait on a mis du lierre pour justement il se revégétalise et qu'il arrête de perdre ses feuilles, parce qu'on les adore les platanes, mais on arrive dans une période de l'automne où les feuilles, là, c'est vraiment compliqué. Et du coup, là, ça me permet justement de recréer une sculpture vivante, si tu veux, d'un arbre. Et comme il continue à pousser dessous, au moment, ça va, ils vont fusionner. Ils vont fusionner.
Apparemment, on m'a dit qu'il y avait eu des DJ à l'intérieur.
Et oui, bah du coup, ça sert, voilà, de DJ boost, mais aussi à des slammers, voilà, ou à n'importe quel orateur en fait qui parle ou qui joue de la musique. Au fond de la place, entre les deux espaces, on a ce qu'on appelle le kabuto. C'est en fait c'est des casques japonais qui redescendent comme ça, des casques de samouraï. Donc ça, c'est la scène en fait, quoi, qui est comme un kiosque à musique en fait, qu'on a installé pour justement accueillir tout un tas de spectacles, quoi, quelque forme que ce soit. Voilà, donc ça, c'est au centre de la place, au fond, côté Garonne. De l'autre côté, on a une espèce d'amphithéâtre naturel, une butte qu'on a créée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dessous, il y avait un bunker. Il y a un bunker de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on n'est pas loin de la base sous-marine de Bordeaux. Et donc, tout autour de la base sous-marine, pour la protéger, en fait, il y avait des bunkers comme ça. Et donc, nous, on avait ce bunker-là, qui était en plus un peu sur le côté, pas vraiment au milieu, moi, tu vois, collé à la galerie, et qui n'était pas accessible, parce que, voilà, toit rond, tout le monde voulait monter dessus, mais on ne pouvait pas. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, tout ce qui était, tous les éléments qui étaient écroulés de la charpente, je les ai collés contre le bunker, et du coup, ça m'a permis de recréer cette butte. Et ça, c'est tout le projet. Moi, j'ai le parc des Buttes Chaumont, que j'adore, à Paris, qui est une ancienne carrière, mais aussi une ancienne décharge. Et cette capacité de transmutation, si tu veux, d'un espace dégueulasse, abandonné, tu vois, dangereux, en le plus bel espace de Paris, quoi. Donc il y a cette volonté, c'est mon petit clin d'œil, voilà, au but de Chauchon. Mais ça nous permet d'avoir une espèce d'amphithéâtre naturel, qui permet justement d'avoir une vue sur la scène quand il y a beaucoup de monde, de prendre un peu de hauteur, de rendre accessible le toit du bunker. Et d'avoir un espace de détente où les gens peuvent se poser dans l'herbe, quoi. Et là, justement, une des dernières installations qui vient faire le tour de cet espace-là, c'est une installation de Samuel Cartini qui fait des machineries sonores. Alors là, je ne pourrais pas te la présenter, la faire tourner, parce qu'elle est en panne, il y a un problème de vérin dessus. Et le principe, c'est qu'en fait, il y a un boulet qui monte et qui passe, tu vois, avec une spire, et puis qui passe dans tout un couloir, et qui vient faire taper des cloches, des choses comme ça. Et ça, c'est un artiste que j'avais rencontré presque une vingtaine d'années, qui était passé là, qui voyait ce que je faisais, il me dit, mais j'adore ce que tu fais et tout, moi j'aimerais faire des grosses pièces comme toi, mais j'ai pas d'espace. Et du coup, je l'ai invité à s'installer dans mon atelier. Et je lui dis, voilà, comme seule contrainte, si tu veux, comme c'est un espace qu'on va partager, moi j'occupe beaucoup le sol, c'est que, en fait, toi tu investisses le plafond et que tu révèles la charpente. Donc je t'avais expliqué, le toit était écroulé, il ne restait que les côtés et quelques résidus de charpente. Je dis, ce serait bien que tu fasses une pièce, tu vois, qui oblige les gens à lever la tête et à regarder un peu dans les coins. Et du coup, il avait pensé cette machine-là avec ce boulet, donc qui faisait tout le tour de l'atelier. Et du coup, après, il a fait des travaux, du coup, on a démonté la machine. Moi, je l'ai invité dans quelques expositions, et puis après, il a une vie autonome, il a tourné. Et l'année dernière, je lui dis, écoute, ta machine, là, elle est où? Fais quoi? Il est dans mon atelier. Puis moi, je veux bien l'acheter et l'installer de manière pérenne au vivre. Donc, elle est revenue, voilà, de manière pérenne au vivre. Et du coup, il y a ce boulet qui, sur le même principe, en fait, fait tout le tour du bunker, monte à un peu moins de 10 mètres, là, et fait tout le tour en tapant des cloches, en passant dans des cuves et revenir par un tube qui est inséré dans la butte, qui permet, quand tu es derrière, en fait, de voir de l'autre côté. De l'autre côté, face au Kabuto, il y a ce qu'on appelle le château. C'est une ancienne timonerie de bateau. Et donc, on dit timonerie quand c'est fluvial et château quand c'est maritime. Du coup, nous, ça nous faisait, par rapport qu'on est de l'autre côté du pont de Pierre, en fait, ça change au niveau du pont à Bordeaux. Pour le permis, tu as fluvial ou maritime, et nous, côté maritime. Donc, on appelle ça le château, quoi. Et donc c'est une ancienne timonerie d'un bateau qui est juste à côté, qui était un ancien pétrolier. Voilà. Là-bas, c'est un espace qui est plutôt dédié au land art. Donc là, avec une installation de Robin Godilla, qui est un hôtel à insectes. Donc ça, c'est un espace qu'on dédie à un artiste qui vient créer une œuvre en général au printemps. Et après, qui reste là jusqu'à l'automne, sur le principe du land art. Et après, on a bordé toute la place là, qui est longée par la rue Achard et donc par le tramway, qui est l'axe principal qui dessert le quartier de Bacalan. Donc c'est un axe assez passant. Bon, en fait, on a planté de la vigne, on a trois rangées de vigne qui nous permettent justement de faire disparaître un peu les voitures, d'avoir quelque chose qui ferme et qui en même temps, voilà, tient un peu à distance et en même temps soit doux et agréable, et qui nous permettra de faire les vendanges de l'art avec, voilà. De l'autre côté, on a toujours pareil, c'est même clairière à sorcières, mais un peu plus grande. Donc là, c'est un espace qu'on a, sur lequel on a fait une terrasse justement pour créer, en fait, différents niveaux, de façon à ce soit pas trop plat, que justement les gens, quand ça peut nous arriver d'accueillir beaucoup de monde, que les gens qui sont assis ne soient pas au niveau des fesses des gens qui sont debout, du coup, voilà, et de garder une lisibilité un peu sur l'ensemble. Adossé donc à ce bunker, pour le faire disparaître aussi, on a un bar extérieur, quoi, là, qui nous sert, voilà, à faire les événements. Là, un jardin d'arrêement, en fait, si tu veux, c'est un mélange de jardin potager, de fleurs et de sculptures. C'est des bacs hors sol qui ont été faits avec des poutres qui servaient à fixer les rails des grues qui étaient installées autour des bassins à flots. Donc, beaucoup d'éléments ici sont des éléments qui ont été récupérés dans le quartier. Pour justement avoir ce côté, tu vois, on est classé patrimoine du 18e, et là en fait on récupère des éléments du passé industriel du quartier pour dire c'était là. Donc on a aussi des bouées là, des corps morts qui sont suspendus, qui servent de balançoire. Donc là, toute l'autre partie, justement, il y a d'autres sculptures avec une fontaine, des points d'eau, quoi, et qui viennent fermer cet espace là. Voilà. Qui est un espace ouvert, mais qui, quand on fait des manifestations publiques, on est obligé de fermer pour réguler l'accès. Et là, on a l'arbre de la déconstruction. Justement, pareil, c'est un arbre que j'ai réalisé avec des éléments de charpente d'un hangar qui a été détruit pas très loin, quoi. Donc c'est l'arbre de la déconstruction. Voilà, donc voilà toute la partie extérieure. Tu vois, avec des champignons, ouais. Aussi, donc moi je fais beaucoup de végétaux, tu l'as compris. Mmh. Alors là, on va rentrer dans la partie privée.
C'est trop marrant, toutes les portes.
J'ai réalisé toutes les portes et elles sont toutes différentes. Elles sont toutes différentes et s'ouvrent toutes différemment. Donc tu as vu la porte magique de la porte. Ouais. Alors là, pour dire, c'est la porte de chez moi, en fait, c'est une énorme porte de coffre-fort, en fait, ronde comme ça, avec un gros volant un peu sous-marin. C'est le coffre-fort pour dire justement, là c'est privé, ouais, là c'est protégé, quoi. La partie où on habite en fait en famille.
C'est bien, c'est beau.
Voilà, donc là tu as mon bureau. Voilà. Voilà, là.
Oh, c'est
la
trop
salle bien. À manger.
On se croirait.
Le salon.
On se croirait dans une autre dimension.
Voilà. Oh. La bibliothèque.
Oh, c'est trop bien.
Notre chambre en haut.
Okay.
Voilà, donc la partie, on a gardé les dalles au sol. Donc derrière le grand rideau rouge, en fait, t'as la galerie. Donc, d'un espace à l'autre de cette entrée-là, je vois l'autre entrée, je peux tout ouvrir. L'idée au départ, si tu veux, c'était de restaurer toute la... Donc là, la charpente est d'origine, était restaurée en état. Donc on a refait tout le bâtiment comme à l'origine. Et ensuite, on est venu créer cette architecture contemporaine qui est totalement réversible. C'est-à-dire qu'en fait, on a posé des plots en béton sur les dalles en pierre qui nous permettent justement d'avoir coulé une dalle en béton par-dessus pour pouvoir avoir un chauffage au sol,
oui, okay.
Qui permet de chauffer pour pas avoir des trucs accrochés au mur ou de défoncer les pierres. Et puis qui nous permet aussi d'avoir des espaces plats. Parce que là, le sol n'est pas droit du tout. Et encore, tu vas voir du côté de la galerie, c'est encore plus flagrant. Et puis après, tu arrives dans la partie cuisine. Ou après tu vois ces trois espaces là qui sont donc les trois chambres des enfants qui sont en mezzanine, en fait un petit espace en bas, bureau, petit salon pour glander et puis
cool.
et chambre à l'étage, donc baigné de lumière par deux trémies. Et ça, c'était assez marrant parce que quand je suis passé devant le club UNESCO pour la réhabilitation, en fait, le projet de verrière avait été validé de l'autre côté parce que le toit n'existait pas.
Là,
ils m'ont dit, mais pour retrouver la symétrie entre les deux bâtiments, ça serait bien que vous ouvriez le toit de l'autre côté.
Trop bien.
Et quand tu vois que normalement, même pour ouvrir un vasistas, c'est compliqué. Là, ils m'ont carrément autorisé à faire deux ouvertures de 15 mètres de long. Oui, c'est eux qui m'ont suggéré. Ce qui fait que ben, ça nous a permis justement d'avoir ces trois chambres-là baignées de lumière et du coup d'amener la lumière dans un endroit qui est quand même très sombre. Tu as vu mon atelier, la partie salon est quand même très sombre. Du coup, voilà, ben, nous on habite donc ici, mais du coup la cuisine... voilà, mais mon salon accessoirement sert de loge.
Ah oui.
Là, ça donne accès directement à la scène.
Ah ouais.
Du coup, voilà, si on fait des événements, on fait des événements un peu gastro. On a des tables d'hôtes immersives. On invite un chef en fait à réaliser des menus inspirés des expositions. Et du coup, voilà, ben, le chef prépare les plats ici. Du coup, c'est pas un espace alors, qui est privatif un peu, mais tout l'espace du bas est pour eux. Mais moi, je suis propriétaire sur 40 ans. Après, l'idée, c'est qu'il y ait d'autres artistes qui s'installent là. Soit pour habiter. Moi, il y avait, vu que j'ai créé totalement l'endroit, voilà, c'était important pour moi d'être au plus proche de ça. C'est ma vie, j'ai mon atelier à côté. Tu vois, hier, on a fini à 4 heures du matin. Ce matin, je suis avec toi. Moi, tu vois, si j'avais habité à 10 bornes, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc j'y habite, mais après peut-être que ce sera un collectif qui investira ça, et peut-être que en gros ces chambres-là deviendront des petits studios pour faire autre chose. Et donc là, tu arrives dans la partie galerie, avec là une œuvre de Luc Billière. Donc ça, c'est un. Tu vois, le sol avait été totalement refait, et là, sur cet espace-là. Vraisemblablement une époque où il y a dû avoir une machine-outil qui avait été installée. Donc le sol avait été défoncé, et il y avait un coffrage en béton très costaud qui avait été fait. Et du coup, quand on l'a refait, je dis non, mais ça, je vais le garder. Je vais le garder pour faire une installation. Si un jour je veux faire un truc en creux, je ne pourrais pas défoncer le sol. Donc là, j'ai un trou, je vais le garder. Et comme ça, je pourrais. Si je veux faire des combats debout, je peux mettre debout, je peux mettre, tu vois, avoir des trucs en porte-à-faux. Et là, j'ai un ami qui s'appelle Luc Billière, qui fait qui travaille beaucoup sur le cosmos, l'espace, et qui fait beaucoup de représentations de la Lune, et qui avait un projet depuis longtemps où il voulait offrir une vue sur la Lune, où en fait, c'est comme si les villes de l'art, c'était un vaisseau de pierre. Et qui passait au-dessus de la Lune, donc c'est plus accessible que les voyages d'Elon Musk ou de voilà. Donc après t'as ce grand L là, donc là où tu vois bien que le sol est en vague quoi, donc légèrement incurvé. Au sol tu vois les pierres de sacrifice qui étaient donc les pierres sur lesquelles en fait qui sont beaucoup plus épaisses, sont beaucoup plus lourdes, auxquelles t'avais les anneaux. En fait, sur lesquels les bœufs étaient voilà, attachés, égorgés. Et c'est pour laver à grande eau, fond à un puits. Et on lavait à grande eau le sol, c'est pour ça qu'il est légèrement incurvé. Et de l'autre côté, dans mon atelier, quand on a restauré, qui est beaucoup plus plat, même si c'est juste à l'œil, en fait, c'était l'atelier de préparation. Parce que quand on a restauré le sol, en fait, le port avait coulé une dalle en béton pour que ça soit plus pratique. Donc on a enlevé le béton pour découvrir la pierre. Et là, on a découvert des grands cercles rouges au sol qui laissaient penser en fait que il y avait des feux qui étaient faits à même le sol pour faire bouillir des voilà, viande, pour faire des préparations, des salaisons, je ne sais quoi, voilà, dans les règles culinaires de l'époque, quoi.
Ok, waouh, on se croit un peu dans Game of Thrones aussi, un peu.
Ah oui, ben oui, oui, bien sûr, c'est ça, c'est mon univers, quoi. Ben on est dans un bâtiment, quoi. Bon, qui était un entrepôt au 18e, hein, donc on n'est pas dans le raffinement des châteaux, c'était quelque chose de quasi industriel, quoi. Moi, après le travail du métal, donc vous voyez, c'est qu'il y a, il y a ce côté moyenâgeux qui est fort, plus mon travail à moi, ben, c'est pas pour rien que je bosse pour le Hellfest aussi. Quoi, tu vois, c'est, moi, ça marche assez bien, on est assez d'accord, quoi. Voilà, et donc effectivement, il y a ce côté un peu intemporel, tu vois, et puis il y avait cette architecture contemporaine, on voulait justement. Mélanger, tu vois, un truc un peu, et ça c'est des spécificités de mon travail, justement, c'est ce côté un peu intemporel, quoi. Moi j'ai fait des installations dans des églises aussi, tu vois, je bosse pour le Hellfest, mais j'ai fait des installations aussi dans une église du 15e dominicaine, donc voilà, j'aime faire ce grand écart et d'avoir des choses qui pourraient évoquer le passé et en même temps qui permettent justement de voilà, se retrouver dans un monde un peu futuriste et en même temps avoir une actualité qui fait qu'il s'inscrit dans la vie contemporaine, quoi. Donc au fond de la galerie, ben voilà, cette scène qui sert de scène pour accueillir du théâtre, des concerts, de la musique, mais aussi des fois qui est un espace salon parce que ça joue autrement. On aime beaucoup à modifier les configurations et à faire que, bon, il y a des règles, on sait que ça fonctionne comme ça, mais dès qu'on peut changer la configuration, on le fait.
Et on peut aller à l'intérieur du bunker ou c'est complètement fermé ?
Non, on peut aller à l'intérieur du bunker. Je l'avais gardé un peu comme le dernier élément à refaire, parce que tu vois, on est en dessous du niveau du sol. Donc tu vois la partie haute là, il y avait de l'eau.
Ah oui.
Tu vois, c'était totalement inondé. Et du coup, ça avait été muré. Et moi, j'attendais que j'ai fini tout le reste pour attaquer ça. J'ai dit, si j'ouvre la porte, je vais avoir envie. Mais il ne faut pas que je me disperse trop. Et j'ai bien fait parce que quand je l'ai ouvert, donc c'était plein d'eau. Du coup, j'ai dit, OK, on va le pomper, pas de souci. Et là, on l'a pompé. Et le mec, il a des filtres, tu vois. Et là, son truc se met à biper dans tous les sens. Il dit, ah, il y a des hydrocarbures et tout, c'est super pollué. Donc, je refous tout dedans. Je lui dis, mais non. Et ce qui devait me coûter 2 000 euros m'a coûté 6. Bon, voilà. Donc, tu vois, je dis, j'ai bien fait d'attendre de ne pas mettre ça dès le pas. Et du coup, on a tout pompé. Et puis après, donc l'intérieur, c'était super. Et puis moi, j'ai un gars qui passe, il m'a dit, mais les murs, là, c'est plein d'amiante.
Ouais, ouais.
Et donc, on a dû tout désamianter.
Ah, là.
Donc, c'est un peu, tu vois, la cerise, tu vois, un petit billet de plus, quoi. Voilà. Et du coup, après, on a juste électrifié. Puis bon, il y a eu la pandémie, ce qui fait qu'on n'a pas encore... Voilà, j'arrête un peu là, les frais. On va le faire évoluer, ça fait partie des choses qu'on veut. Mais bon, le projet des vives dans sa globalité, c'est un work in progress. Donc, ça va avancer. Donc pour l'instant, c'est juste des loges comme ça, c'est un peu spartiate. Voilà, on peut fumer des clopes, on peut faire n'importe quoi, on peut faire du bruit. Enfin, voilà,
mais là, tu déranges personne.
Non, là, tu déranges personne. Donc voilà. Cool. Donc voilà, mais là, tu as fait le tour des vives de l'art, ma belle.
Merci.
Même après l'avoir vécu et écouté je ne sais combien de fois, ça me donne encore envie d'y courir. J'espère que c'est pareil pour vous. En plus d'être un lieu à voir, c'est un projet artistique et une programmation qui se veut être en lien avec nos sujets d'actualité. Les Vivres de l'Art accueillent des résidences d'artistes, des concerts, des performances, des expositions bien sûr, mais surtout, il ouvre ses portes aux projets et associations locales. C'était le cas de Palace Hotel qui organisait une nouvelle édition du Side Club dans la salle de concert du lieu. Je les laisse se présenter.
Bah alors moi c'est Bobby, un des 4 membres de Palace Hotel.
Okay. Moi c'est Aizen, donc aussi partie des 4 membres de Palace Hotel, principalement artistes. En tant que Palace Hotel ou un G-son avec d'autres gens ou mes propres projets et voilà.
Moi c'est Seymo, donc sur la soirée ce soir principalement artiste aussi vu qu'on passe avec Simon avec nos shows solo et aussi du coup organisateur de l'événement avec les gars vu qu'on fait les deux, on a les doubles casquettes donc là on est et sur la technique et en live ce soir.
Alors, à la base, nous, on est tous issus de la même promotion en école d'ingé son. Donc, on a ce lien, cette vocation commune. Et naturellement, tout comme il y a des groupes qui se forment dans les écoles, quel que soit le cursus, c'est ce qui s'est passé pour nous. Et du coup, en sortant de l'école, on a voulu aller dans le brut, dans le dur, et aller à la rencontre des lieux, de différents artistes qu'on va voir ce soir, notamment la scène locale et tout. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait apporter en termes de musique, nous, qu'est-ce qu'on peut créer. Et là, ça, c'est la première facette. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on peut organiser comme événement pour rassembler, en fait, et donner de la force aussi aux autres, parce que là, des événements comme celui-ci, ça permet de donner des scènes, voilà, sans de donner des opportunités, en fait, aux artistes de briller un petit peu, ne serait-ce qu'un soir. Et c'est, voilà, c'est une des volontés. C'est parti un peu de là.
Voilà, de mettre un peu en lumière la culture. À la base, la culture urbaine, parce qu'elle était très peu mise en lumière à Bordeaux, et puis en fait, on s'est pris de la culture en général et de tout style de musique et de tout exposant. Donc finalement, on s'est mis sur la culture en général de façon plus large et vraiment promouvoir, voilà, à la base d'événements un peu dans ce style-là qui mélange plusieurs disciplines.
En effet, les Vivres de l'Art nous accueillent bien gentiment pour la troisième édition du Site Club. Le Site Club, c'est un événement qu'on a conceptualisé ensemble il y a à peu près un an. Donc c'est sa troisième édition, les deux premières étaient au Pourquoi Pas Café, qui est un autre lieu culturel à Bordeaux, un petit peu plus petit. Et en fait, le Site Club, le concept, c'est très simple. On a une line-up de musique qui nous tient à cœur. En général, on est aussi dedans parce que c'est une occasion pour nous de jouer, et voilà, c'est quand même normal. Et on essaie de varier, donc il y a de la pop, de la soul, il peut y avoir plein de choses, on est ouvert à tout. Si vous écoutez ça et que vous trouvez l'event sympa, vous pouvez aussi postuler, on est ultra ouvert. Et... donc ça c'est le corps de l'événement, c'est la musique, et toujours amener d'autres intervenants, des exposants, ça peut être de la fripe, du custom de vêtements, du tatouage, de la photo, c'est ce qu'on a aujourd'hui, on a tatouage, photo, vêtements customisés, et voilà, photo argentique, et donc c'est des gens qu'on aime, dont on aime le travail en fait sur Bordeaux, donc on essaye de rassembler tout ça, et ça donne le Site Club, voilà. Bah, en fait les Vivres de l'Art c'est un peu le petit coin Alice au Pays des Merveilles en plein milieu de Bordeaux. Là on est sur un podcast donc malheureusement les gens ne peuvent pas voir mais c'est
mais
vraiment
t'inquiète pas, il y a une visite audio descriptive.
Ah super. C'est un temple de curiosité, donc évidemment quand on a découvert le lieu on était hyper intrigués. Il y a un potentiel phénoménal sur le lieu, il y a des agencements à faire de tous les côtés, il y a plein de choses, donc quand on a vu le lieu on a eu envie tout de suite de faire des choses dedans, et monsieur Bisson a été très, très accueillant, très ouvert, disponible, à l'écoute.
Le lieu en fait, bah, je suis un peu d'accord sur le fait que c'est un peu le trou d'Alice, parce que, bizarre dit comme ça, c'est, en gros, le propriétaire est, on va dire, un peu passionné par le métal, la soudure et les trucs comme ça, et du coup on peut voir plein de choses. Il y a une épée d'Excalibur qui est là-bas,
c'est vrai.
Nous avons... on a une cabine de DJ qui est coincée dans un arbre en hauteur.
Ouais.
Il y a un faux arbre, mais bon, c'est pas grave. Il y a des chaises, enfin, il y a plein de trucs. Il s'est juste amusé à récupérer plein de choses et construire d'autres trucs. Par exemple, le gros truc qu'on voit derrière moi, là, tout le bunker, il y a une boule qui est de l'autre côté. Si on met un euro, elle monte et elle fait le tour du bunker en faisant de la musique, en touchant des trucs métalliques juste pour faire des sons.
C'est une sorte de machine à bruit, en fait. C'est du bruit que de la musique.
Ouais, alors elle était voilà, prévue pour de la musique.
Lieu de curiosité, quoi. C'est ça.
Mais c'est magnifique, quoi. Le lieu est sublime.
À toi, personne qui te demande si tu dois aller au Vivre de l'Art, et à toi qui as peur peut-être de pousser les portes, sache que ce qui est pratique au Vivre de l'Art, c'est qu'il n'y a aucune porte à pousser. Le lieu est en accès libre toute la journée. Tu peux, sauf évidemment, ça ferme aux alentours de minuit, quelque chose comme ça, mais c'est avant tout une galerie d'art et un parc d'exposition. Donc c'est vraiment entrée libre, il n'y a pas d'entrée à payer. La seule chose possiblement à payer, c'est si tu veux boire un verre au bar. Mais à part ça, c'est faut le prendre comme un musée, une galerie d'art, et faut le prendre comme un musée le dimanche, donc comme un musée gratuit. Enfin, le premier dimanche du mois, je crois que c'est ça, ou le mercredi.
Ouais, c'est ça,
ok. Voilà, donc c'est gratuit, ouvert. Donc c'est les meilleurs arguments, je pense. Voilà, et on peut s'y perdre longtemps dans ce lieu.
À l'occasion de cet événement, j'ai pu rencontrer beaucoup d'artistes qui jouaient le soir même et qui nous disent quelques mots sur les Vivres de l'Art.
On est là parce que La Grappe est en concert invité par Palace Hotel pour la troisième édition de leur soirée Site Club. On a été invité aux deux premières éditions aussi. La première édition, il n'y avait que Mendy Labaz et JMLS qui sont autour de la table. La deuxième, on était tous ensemble, la même équipe d'ailleurs qui va se produire ce soir. Il manque juste Obédobé qui arrivera tout à l'heure, mais là vous avez l'essence. Bah moi du coup c'est Louis, rappeur, auteur-interprète de la grappe. On est 7 rappeurs en tout, il y a 2 beatmakers, un clipmaker qui est avec nous, notre DJ aussi qui est un des beatmakers de la grappe. Et les gars, bah, je vous laisse vous présenter. Hein.
Alors bah, bonjour, bonjour Agathe, ça fait super plaisir d'être ici. Moi c'est Helsinki du coup, comme la ville. Et pareil, comme l'a dit Louis, auteur, interprète au sein de la grappe et rappeur aussi.
Salut la MIF, j'espère que ça va. Moi c'est Mendy La Base, on est là en direct des Vives de l'Art pour le Side Club 3, parce que tu l'as pas dit, mais les deux premières éditions c'était au Pourquoi Pas Café à côté de la gare, et là du coup on est au Vives de l'Art.
Totalement Monzin, t'as totalement raison.
Et voilà, bah, rappeur de la grappe aussi, et un peu de compo, mais rien qui est sorti, mais ça arrive sur les projets des frérots, j'espère, vite.
Ok, ok, yo yo yo, moi c'est JMLS. Rappeur de la grappe aussi.
Dealer, le G-dealer.
Auteur, interprète, compositeur à mes heures perdues.
Charlie on the track, donc beatmaker et DJ avec la grappe. Et bah, comme les potos, c'est un plaisir d'être ici ce soir. Et on est accompagné
du Carbo. Du coup, moi j'essaye principalement de rendre ces gars un peu stylés sur scène, quoi. Voilà, en réalisant leurs clips. Et, mais ils font du bon taf, donc j'ai hâte que vous puissiez découvrir ça.
Alors, on s'est un peu tous rencontrés au lycée, on était dans le même lycée, à Royan, on s'est rencontrés en faisant de la musique tout simplement, on s'est retrouvés parce qu'on s'est rendu compte qu'on rappait un peu tous ensemble. On a commencé à faire des freestyles tous ensemble et un jour on s'est dit pourquoi pas rendre ça sérieux et au Bédobé avec notre cher Carbo on trouvait le nom de la grappe qui nous correspond bien parce que Bordeaux, le vin et surtout c'est... On est des raisins, quoi. On est une grappe de raisins. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et du coup, voilà. Donc, notre but, c'est essayer de créer des événements, de pouvoir défendre notre musique. À terme, on aimerait bien construire une entreprise, essayer de devenir un label pour s'autoproduire et pourquoi pas produire d'autres artistes dans l'avenir. Ce serait l'idéal. Et voilà. Donc, je tiens bien à rappeler que la grappe, c'est pas un collectif, c'est pas un groupe, ça a pour vocation de devenir un label. Et voilà, on est tous des rappeurs, on a tous des projets solo et il y aura des mixtapes qui sortiront dans pas longtemps, tous ensemble. Ouais, l'endroit est magnifique, rien que même sans événement, je pourrais y passer des après-midi. C'est hyper agréable comme endroit. C'est un mélange de verdure, d'architecture. C'est très 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 beau. Moi, j'adore. Donc osez, venez et surtout ouvrez-vous à la culture. Je vais faire un peu le moralisateur, mais on sort d'une époque assez sombre avec le Covid, où la culture a été un peu mis en pause pendant.
C'est devenu un point Goldwyn, le Covid.
Donc ouais, le point Goldwyn, va falloir qu'on en parle. Donc voilà, le Covid, ça a été un peu un coup de massue pour tous ceux qui font partie de la culture dans le monde entier d'ailleurs. Donc la meilleure façon de relancer la machine, c'est de bouger, c'est de venir aux événements, c'est de découvrir, c'est de rencontrer, c'est tout ça, quoi.
Et ouais, du coup, Vive de l'Art, je pense que ça fait longtemps que nous, en fait, on n'est pas de Bordeaux, mais on est de Royan. Comme il a dit, on a débarqué sur Bordeaux il y a 7 ans. Je pense que les Vives de l'Art, ça fait un peu plus longtemps que ça qu'ils bombardent des événements sur Bordeaux. Et, mais tu vois, dès il y a déjà 6 ans, il y avait déjà des open mic ici. Ça faisait tourner des artistes locaux. Je pense que lui a pour vocation de faire ça aussi, tu vois, de proposer des artistes locaux et surtout des styles différents. De toute façon, vivre de l'art, voilà, c'est tous les arts, tu vois. Je pense qu'on a la progrès sous les yeux là-bas sur le tableau, il y a plein de trucs différents et c'est stylé, tu vois. C'est culturel, artistique, ça ramène tout le monde en fait.
Puis j'aimerais aussi revenir sur les vives de l'art. En vrai, on n'en a pas beaucoup parlé aussi, mais le lieu, l'architecture fait que... Genre c'est aussi une faille temporelle, il y a des loges dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale, t'as des bâtiments genre d'un peu de la reconstruction, là t'as des artistes de malades, je pense, un peu contemporains. Enfin c'est un mix qui est quand même vraiment cool, quoi. Donc, et puis même au niveau des artistes que tu peux y retrouver, ça passe de la techno au hip-hop, à la... Enfin je sais pas, donne-moi des...
C'est hyper éclectique, quoi.
L'électro,
c'est ici qu'il y a eu un DJ par... Voilà. Enfin ils ont fait le record du monde de nombre de DJ.
De fou. C'est ça. Dédicace à DJ 7 Beats,
ouais.
Notre frérot de Royan qui était là. Et en fait, y a, pendant 24 heures, il y a peut-être 100 DJ qui se sont relayés. Je dis une connerie, je pense, au niveau du chiffre, mais qui se sont relayés pour balancer du son. Et c'était au Vive de l'Art. C'était il y a un ou deux ans. Et c'était trop lourd. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, c'est vrai que c'est intéressant de fou. Parce qu'il n'y a pas que la programmation qui est artistique, entre guillemets. C'est des lieux qui sont déjà artistiques. En fait, tu rentres. Voilà, c'est sûr qu'il y a des artistes qui sont passés par là déjà pour. Pour créer ce mood-là dans le lieu. Le silo, c'est pareil, je me souviens, c'était graffé de partout,
Et on met un peu la lumière sur quelqu'un ce soir, en tout cas qui va sortir donc un petit quelque chose en décembre. Donc l'épisode sortira et il y aura un petit projet. Vas-y, raconte-nous.
Ouais, du coup, comme tu l'as dit, je suis sur la préparation d'un petit projet là. Ça me tenait à cœur de préparer ça, puisque bah du coup, moi je suis arrivé dans la grappe, pareil, le dernier. Je suis un peu le doyen, tu vois, de ce collectif. Et j'avais rien sorti et je me cherchais beaucoup musicalement parlant. Et je me suis dit, allez go, on va le faire. Et j'ai commencé à écrire et les choses étaient assez liées entre elles et avec beaucoup de cohérence. Et du coup, c'est là où je me suis vraiment déterré à composer ce projet qui doit sortir normalement au mois de décembre.
À préciser que notre ref Helsinki qui vous parle enregistre son album dans un placard à Paname. Ouais. Il travaille toute la journée, il a 2 heures de transport par jour et quand il rentre, mon gars, sur les 3 heures qui lui restent, il fait du son pour vous envoyer de la peufra. Alors si vous voulez entendre ce que ça donne, deux matelas, une couverture pour calfeutrer une cabine, je vous conseille d'aller écouter son G-Pro. Et si vous voulez entendre aussi du vrai peurat, du vrai son, nous on a écouté 2-3 trucs. D'ailleurs, ce soir, au Vivre de l'Art, pour le concert de la Grappe, on va avoir quelques exclus du projet et on va en parler plus amplement. Mais mon ref, je t'ai coupé, je te laisse en parler.
Mais voilà, le ref Louis a tout dit, hein. J'enregistre tout dans mon petit placard. Écoute, pour l'instant, ça sonne plutôt bien. Après, ce sera à vous aussi de me faire vos retours sur l'œuvre. Mais voilà, un 4 titres qui doit sortir, qui va s'appeler Artriste. Donc, avec un univers assez mélancolique, avec de la remise en question, beaucoup de questionnements, aussi de l'affirmation sur certaines choses que j'ai pu vivre ces 2 dernières années.
Ça fait des heures que je me répète les mêmes rimes dans la tête. Je vais pas te mentir, c'est pas terrible. Et les sangs tournent comme des guerriers dans l'arène. Une vie pareille, c'est pathétique. Mais disons-le franchement, t'aimais dans ce monde sans même que tu t'en rendes compte. C'était pas le deal. Je fermais les yeux pour me leurrer. Aujourd'hui j'ai même plus les tiens pour pleurer. Pourquoi j'ai fermé les yeux? Pour me leurrer, je sais pas, peut-être. Pour sentir un peu ce que je verrais sans toi, peut-être. Me laisser partir comme le reste. J'ai toujours ce gun braqué sur la tempe. Et dans la tête une tempête de pensées qui ne veulent que t'emmener danser. Au coin je sais que mes démons m'attendent. À quoi bon la tenter? Au pire je finirai par chanter. Pleine tache de sang. Quand j'ai pris la vérité comme une pleine barre.
Le Side Club, en plus de mettre en lumière des musiciens locaux, invite également des créateurs et des tatoueurs sur cet événement. On a pu faire la rencontre d'une jeune marque bordelaise qui valait le détour, Folie Nocturne, et que je vous invite grandement à suivre pour découvrir tout son univers artistique. Je la laisse se présenter et vous parler de sa pratique.
Et salut, moi c'est Laure, j'ai 26 ans et je viens de Bordeaux. Donc je vais vous parler en fait de ma marque de vêtements que j'ai créée il y a à peu près un an. Donc ce que je fais c'est de l'upcycling, donc je travaille sur de la seconde main, des vêtements de seconde main, et je propose en fait de la customisation sur vêtements de seconde main. Donc je propose plusieurs techniques, donc ça peut être de l'impression textile, de la broderie, de la peinture à la main. Voilà, je travaille vraiment le textile d'une manière assez artisanale. Et mon concept, c'est de faire comme un tatoueur. Je propose mes dessins, donc je fais mes propres flashs. Et en fait, tu peux constituer ton vêtement comme tu veux, avec soit des flashs que j'ai prédestinés et que tu peux choisir, et tu fais ton vêtement en fonction de tes goûts et des dessins que t'as choisi. Et tu peux aussi faire une demande plus particulière, donc créer vraiment une pièce de A à Z à ton effigie, complètement unique. En gros, voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer, c'est de l'éco-responsabilité et en même temps pouvoir être complètement créatif et porter sa personnalité, porter ses convictions. Voilà, et moi je propose de réaliser tout ça ensemble. C'est un réel échange entre mon client et du coup ma passion qui est devenue ma marque. Et pour parler du coup des vivres de l'art, c'est un lieu que je connais plutôt bien parce que je suis de Bordeaux depuis que je suis toute petite, depuis mes 2 ans, et j'ai évolué dans Bordeaux et j'ai vu l'évolution. Et les vivres de l'art, ça a été un des lieux qui m'a quand même marqué dans son originalité et surtout dans sa proposition d'événements assez éclectiques. Donc pas mal d'open air où par exemple j'y suis allée en tant que spectatrice ou des événements de mode, des défilés, des résidences d'artistes aussi. Enfin, c'est un lieu qui vit en permanence et qui est déjà même visuellement hyper hors du commun, que ça soit dans son architecture, ses sculptures. C'est très visuel et c'est aussi très éclectique humainement parlant et artistiquement parlant.
En somme, un lieu plein de découvertes où tout est possible. Merci d'avoir écouté ce 7e épisode de La Halte. On termine la semaine prochaine le tour de la Nouvelle-Aquitaine avec la Forge Moderne à Pau. Je tiens à remercier Jean-François pour son accueil, à toute la team de Palace Hotel pour leur témoignage et à tous les artistes présents ce jour-là. Merci à Helsinki pour son morceau Minuit 10 tiré de son nouvel EP Artriste, que je vous conseille d'aller écouter de ce pas. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant Quartier Libre. En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
La Halte,
au cœur de nos 13 régions de France.